dissipé à ce point-là, quand même. Après avoir tenté de faire rapidement le tour de la question, donc, hein, la dernière fois, et j'espère d'y être entré, et si j'en juge par telle ou telle discussion que j'ai eue juste après ou plus tard, j'ai l'impression qu'un certain nombre d'entre nous y sont entrés. Il me semble qu'il faudrait esquisser maintenant, au fond, les divers éléments qui me semblent être ceux que la révélation biblique nous propose en réponse au problème du mal. Et je crois qu'il ne s'agit pas d'une solution. Ce n'est pas comme s'il y avait une question, puis on va trouver la solution qui colle, mais il s'agit plutôt d'entrer dans une réponse. Alors, le premier point que je voudrais qu'on envisage, c'est la question, au fond, d'où réfléchissons-nous ? Vous aurez sans doute remarqué que la plupart des tentatives de solutions que j'ai esquissées la dernière fois ont un point commun. C'est que toutes, elles nous situent au-dessus du problème. Tout se passe comme si nous étions devant un problème qui était posé sur la table. Alors là, il y a Dieu, il y a le mal, il y a les attributs de Dieu, il y a la bonté de Dieu, il y a la toute-puissance de Dieu. Au fond, on se situe toujours dans cette perspective au-dessus de Dieu, comme si on était le Dieu au-dessus de Dieu qui est capable de juger pleinement des différents éléments. On est un peu comme devant un puzzle, ou plutôt devant un casse-tête chinois. Vous savez, c'est trois ou quatre machins qui semblent tout simples à mettre ensemble, puis on passe des heures bêtement à s'énerver là-dessus. Et c'est un peu la même chose, hein, ça ressemble à ça. Et dans cette perspective, c'est toujours à notre esprit, dans la souveraineté de son jugement, de résoudre la question. Comme si on était, au fond, bien au-dessus de Dieu et que c'est tout simple, il suffit de voir la solution. Or, je crois que la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que nous sommes, nous, à l'intérieur de la question. Le mal, nous ne le dominons pas comme un élément conceptuel qu'on peut mettre à sa place, nous le subissons. Notre existence, notre pensée, ne sont que sous cette question, au sein de la question, en dessous même, on pourrait dire. En tout cas, pas au-dessus. Nous ne sommes pas devant un mécano dont il s'agirait de bien agencer les pièces, mais à l'intérieur d'un problème qui est notre problème. Et le chemin que nous pouvons chercher part de notre situation et se ferait une voie, non pas, je dirais, vers la solution, mais plutôt vers la libération du problème, vers la libération du mal. Alors on pourrait objecter, oui, mais est-ce que la révélation de Dieu dans la Bible ne nous permet pas de nous placer en quelque sorte du point de vue de Dieu, puisque dans la révélation, c'est lui qui parle. Je pense que c'est vrai qu'elle le pourrait, on pourrait imaginer ça. Le problème, c'est est-ce que la révélation le fait ? Est-ce qu'elle suit ce chemin ? Est-ce que nos tentatives de solution ne sont pas plutôt le travail respectable, compréhensible des théologiens, des hommes, des êtres humains qui réfléchissent sur la révélation. La révélation a-t-elle, en quelque endroit, cherché à nous donner une explication du mal ? Je ne pense pas. Le plus célèbre livre dans la Bible, dans ce domaine, hein, qui est sans doute un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, c'est le livre de Job. Vous rappelez, le livre de Job nous présente le cas du juste affligé de tous les maux. Alors, on a un prologue, on a un long, long, long développement, et puis une fin. Et vous rappelez que le prologue fait état d'une discussion, en quelque sorte, entre Dieu et Satan. Hein, Satan qui vient, qui dit à Dieu, écoute, ce Job qui est un type qui t'adore, etc., c'est vraiment parce que tu l'arranges, parce que tu le bénis, etc., mais coupe-lui les vivres et tu vas voir, il va avec des vivres. Coupe-lui la bénédiction, on pourrait dire, et tu vas voir, il va se retourner contre toi, etc. Et Dieu permet à Satan, Dieu qui fait confiance à Job, on pourrait dire, permet à Satan de tenter son serviteur Job. Alors, c'est vrai que c'est une explication, c'est une présentation qui n'en est pas une, qui n'est pas une explication, en tout cas, pour la question qui nous intéresse, hein, pour la question si Dieu existe, pourquoi le mal. Et puis alors après, Job perd tout. Il perd sa famille, sa richesse, sa santé, et le mal dont nous parlons, il va l'éprouver dans sa chair. Hein. Et un certain nombre de ses amis viennent le consoler. Et devant l'indignation permanente de Job, qui dit « Mais non, je ne comprends pas pourquoi je suis juste, etc. », au bout d'un certain temps, on voit les amis qui viennent le consoler, qui commencent à s'énerver, qui se disent « Mais enfin, il devrait quand même réfléchir », et ils vont lui donner des tentatives d'explication, des tentatives de solution. Et il s'agit des réponses classiques que l'Ancien Testament apporte. Ce n'est pas des trucs délirants, nouveaux, jamais vus, etc. C'est des choses très, très classiques. Le mal, c'est la conséquence du péché. Si finalement tu souffres, c'est quand même que quelque part, il doit bien y avoir une raison, etc. Or, tout au long du livre, Job refuse ses explications et il plaide non coupable. Et nous savons, nous, parce que nous avons lu le prologue, nous sommes montés au ciel, nous avons vu la discussion entre Dieu et Satan avant, alors que les pauvres amis, ils n'avaient pas ça. Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas parce que Job a été infidèle qu'il souffre. Et dans l'intervention finale de Dieu, les arguments des amis sont balayés. Mais les protestations de Job, finalement, le sont aussi. Et vous rappelez ces grands, grands textes, là, « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde ?» dit Dieu à Job. « Déclare-le, puisque ta science est si profonde, etc. » Et Dieu va décrire sa puissance au-delà de toute compréhension humaine. Et la conclusion de Job, ça sera « Je sais que tu peux tout, que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Donc on pourrait dire que dans le livre de Job, les tentatives d'explication, toutes, que ce soit celles des amis ou même que ce soit celles qui sont dans le cœur de Job, toutes les tentatives d'explication sont révoquées et ce n'est que dans le propre cheminement de Job et de la relation de Dieu bien sûr avec Job et de Job avec Dieu que la question trouve non pas une solution à proprement parler, parce que vous fermez le livre, Job, il n'a pas plus tellement de réponses qu'au départ, mais plutôt une sorte de sortie de la question à travers l'expérience que Job fait du mystère de Dieu. C'est-à-dire que Job, parce qu'il dit maintenant mes yeux t'ont vu, la question en quelque sorte ne se pose plus pour lui. Et il me semble que c'est cette sortie, cette lumière au fond du tunnel qu'on doit chercher, ou plutôt recevoir, mais elle passe moins par le jeu des concepts, par le mécano intellectuel qu'on peut imaginer, que dans la foi, comme Job, par une nouvelle compréhension de Dieu et de son action. Le deuxième point que je voulais souligner, avant de rentrer peut-être vraiment dans la réponse que la Bible en donne, c'est l'accueil des paradoxes. Pour celui qui cherche une solution au risque de se mettre à la place de Dieu. Et en même temps, je ne veux pas disqualifier la recherche des solutions, parce que je dirais, il y a des recherches de solutions qui nous travaillent. Donc c'est ni mal ni inutile. Mais au fond, le désir qui est le nôtre, c'est d'essayer de trouver une réponse rationnelle à la question. Et c'est bien pourquoi la tentation a été permanente tout au long de l'histoire, de relativiser ce que je vous avais dit, ou d'estomper l'une des affirmations bibliques qui, j'ai essayé de le montrer, forme le contour du problème. Vous rappelez, la réalité du mal, le mal est vraiment mal et on ne peut pas le gommer, Dieu est vraiment toute bonté, etc., et Dieu est vraiment aussi toute puissance. Or, il me semble que si nous croyons à l'inspiration et à l'autorité de la révélation biblique, c'est bien toutes les affirmations bibliques qui sont précieuses. Et on ne peut pas simplement se contenter, parce que ça simplifie la vie sur le plan rationnel, d'éliminer une partie. C'est ce que font beaucoup de gens, c'est ce que font beaucoup de philosophes, c'est ce que font même, je crois, un bon paquet de théologiens. Et ils éliminent telle partie parce que leur sensibilité va dans ce sens-là, leur regard va dans ce sens-là, spontanément. Et selon qu'on ait un peu ceci ou un peu cela, ben c'est tel pôle qu'on va plus ou moins gommer. Nous sommes donc amenés à accueillir, me semble-t-il, à recevoir ce qui nous apparaît comme des paradoxes. Telle chose est affirmée, telle autre aussi est affirmée, et nous ne voyons pas comment rationnellement les coordonner. Et je crois que l'une et l'autre, alors, doivent être reçues comme vraies ensemble. On pourrait même dire mieux, l'une est vraie en relation avec l'autre. Chacune nous présente un aspect d'une vérité qui est complexe, et dont l'articulation à nous échappe. Alors, c'est ce qu'on a appelé, mais il ne faut pas se braquer sur les mots, une approche dialectique. Mais alors, je sais que le mot est ambigu, parce que le mot dialectique a servi à toutes les sauces et veut dire beaucoup de choses. Alors, si vous en avez un mieux, vous me direz. Mais je n'ai pas trouvé mieux pour exprimer ça. Ça veut dire, dans ce sens-là, accepter que deux aspects de la révélation biblique sont vraies ensemble, même si nous ne pouvons pas en faire un système. Ça ne veut pas dire que la vérité de Dieu est comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu est dialectique, que la vérité de Dieu est dialectique. Ça veut simplement dire que notre manière à nous de parler de Dieu, à cause des limites qui sont les nôtres, à cause des limites de notre raison, ne peut pas faire l'économie de cette approche en acceptant des choses apparemment contradictoires, simplement à cause de notre incapacité de saisir le réel. Et il ne faut surtout pas croire que ce que je dis là ne concerne que la question du mal. En fait, spontanément, nous fonctionnons comme ça, dans un bon nombre, sur un bon nombre de sujets. On pourrait dire, par exemple, Dieu, si on lit l'Ancien Testament, rien que l'Ancien Testament, sans même aller jusqu'au Nouveau, si vous lisez simplement l'Ancien Testament, Dieu est le maître de l'histoire. Et tout ce qui arrive, alors même les choses, je dirais, qui nous apparaissent anodines, correspondent à la volonté de Dieu. Rien n'arrive sans sa volonté. Et pourtant, il nous est dit aussi qu'il se repent de ce qu'il avait projeté, qu'il change d'avis en fonction du comportement de son peuple, par exemple. Mais pas seulement de son peuple. Jonas à Ninive, c'est pareil, c'est pas le peuple de Dieu, c'est les Ninivites. Finalement, la conversion des Ninivites va entraîner le changement de la position de Dieu. Alors, selon qu'on va être plutôt d'une sensibilité ou d'une autre, on va dire, oui, ça c'est anthropomorphique, gros mot, c'est anthropomorphique, ça veut dire c'est Dieu qu'on bricole comme un homme, c'est Dieu qu'on présente à la manière humaine. La vérité, c'est que Dieu est tout puissant. Et puis, il semble qu'apparemment, mais c'est pas vraiment, vraiment, vraiment vrai, tout se passe comme si Dieu se repent. Ou bien alors, nous disons le contraire, nous disons, mais oui, Dieu est en relation avec nous, notre comportement a une influence sur Dieu, etc. Et Dieu peut changer. Alors, bien sûr, il est souverain, il est maître de l'histoire, mais enfin, il faut en prendre ça au sens large, au sens flou, au sens... Bon, et bibliquement, les deux sont vrais, les deux sont affirmés. Et la réalité, c'est de, il me semble, la fidélité biblique, c'est de maintenir les deux ensemble. Mais je prends cet exemple, on pourrait en prendre un paquet. Et même, je dirais, plus on s'approche du mystère de Dieu, plus on s'approche de l'essentiel, plus c'est vrai. Et plus l'histoire de l'Église a fonctionné comme ça depuis toujours, et nous fonctionnons comme ça sans nous en rendre même compte. Vous savez, les deux dogmes principaux du christianisme universel. La christologie, qui est Jésus-Christ, ou bien la Trinité, qui est Dieu, fonctionne exactement comme ça. Lorsque vous affirmez sagement, parce que vous êtes de bons chrétiens évangéliques, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qu'est-ce que vous faites d'autre que très précisément affirmer ces deux choses en même temps, qui sont en fait deux affirmations qui, rationnellement, à notre niveau de compréhension à nous, sont deux affirmations contradictoires. Qu'est-ce qu'un vrai homme, si ce n'est une créature qui, par définition, est donc radicalement différente de Dieu ? Qu'est-ce que vraiment Dieu, si ce n'est justement ne pas être une créature ? Or, nous affirmons, et je crois que la Bible nous amène à affirmer, que Jésus-Christ, il est vrai Dieu et vrai homme. Et ce n'est pas deux affirmations qu'on peut avoir un jour l'une, l'autre jour l'autre, ou un bout l'une. En fait, les deux ne sont vraies que si elles sont ensemble. Si vous dites Jésus-Christ est vrai homme et que vous arrêtez là, c'est un peu court. Si vous dites Jésus-Christ est vrai Dieu, c'est notre... Et ça a été la tendance dans l'histoire de l'Église depuis toujours. C'est-à-dire de dire Jésus-Christ est vraiment homme, et puis il a été divinisé, nanana, bon. Ou alors, plus courant chez nous évangéliques, Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et sous une forme humaine, sous une apparence humaine, sous... Bon, mais c'est pas ce que la Bible nous dit, que c'est une apparence. Il est homme, vraiment. Si on prend la notion de la Trinité, on a exactement la même idée. Dieu est un. Ça, c'est la confession de foi fondamentale de la Bible. L'Éternel, ton Seigneur, l'Éternel est un. Et personne ne le met en cause tout au long de l'Écriture. Et puis en même temps, on dit quand même en plus que Jésus est Dieu. Et Jésus n'est pas le Père. Et Jésus n'est pas l'Esprit. Et l'Esprit est Dieu, mais l'Esprit n'est pas Jésus, et l'Esprit n'est pas le Père. Et quand on dit finalement Dieu est un et trois, d'une certaine manière, on essaie en balbutiant de rendre compte, je dirais, de deux éléments qui sont vrais ensemble, même si Dieu, on sait bien que Dieu n'est pas un mécano et que c'est pas un jeu comme ça de 1 et 3. On sait que la réalité est infiniment plus, sans doute, complexe et plus simple en même temps que ce que nous pouvons en dire. Mais ce que nous pouvons en dire passe par ce genre de chemin. Je pense que quand on voit, par exemple, on a parlé hier, mais quand on voit, par exemple, la manière dont des théologiens, depuis les tout premiers siècles, se bagarrent avec une fidélité exemplaire, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, etc., sur la question de savoir si Dieu est parfaitement souverain dans le salut et que c'est lui qui fait tout du début à la fin, le ma foi, etc., ou bien est-ce qu'il y a une responsabilité de l'homme ? Et quand on voit que les mêmes arguments reviennent pendant 2000 ans sous la plume de gens qui sont tous des gens supérieurement brillants, qui veulent être fidèles à l'écriture, etc., il y a peut-être un indice qu'il doit y avoir, là aussi, deux pôles qui existent, je dirais, comme quelque chose de paradoxal. Je crois que la souveraineté de la seule grâce de Dieu, qui fait que même si je dis oui à Dieu, si je crois, c'est déjà un don de Dieu et c'est Dieu qui le dit à travers moi, hein, qui, Dieu qui nous donne et le vouloir et le faire, et en même temps la responsabilité de l'homme, qui fait que mon oui, ben, il n'est pas neutre, et que mon non, il est encore moins neutre, si j'ose dire, enfin, il n'est pas neutre non plus, ces deux éléments me paraissent fondés aussi bibliquement. Donc je crois que nous devons continuer à affirmer fortement que le mal est mal, comme toute la révélation nous le rappelle avec force, avec indignation, avec véhémence. Et que devant ce mal, Dieu est à la fois toute bonté, tout amour, et en même temps toute puissance. Alors c'est vrai qu'on n'a pas à la fin de ça une image de Dieu qu'on peut dominer. Mais au fond, est-ce qu'une telle image de Dieu ne serait pas un croquis un peu un tantinet simpliste ? Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu un fantasme un peu de croire que nous, avec les limites qui sont les nôtres, nous pouvons avoir une idée englobante en quelque sorte de Dieu ? Comme le rappelle le livre de Job, qui sommes-nous pour prétendre comprendre Dieu, le prendre dans les filets de notre raison humaine ? Donc lorsque nous affirmons l'une et l'autre chose, nous disons que les deux sont vrais, que Dieu se trouve en quelque sorte au-delà du paradoxe apparent. S'il fallait trouver une image, je dirais, les diverses affirmations sur Dieu sont comme, pour moi, un peu les côtés d'un viseur. Vous voyez, peut-être pas une pratique du viseur, moi non plus d'ailleurs, mais j'imagine. Les côtés d'un viseur qui nous montre ensemble la direction vers laquelle le regard doit porter pour être bien orienté. Le viseur n'est pas la cible. Dieu n'est pas dans les mots que nous employons pour le dire. Hein. Dieu est sûrement au-delà, d'une manière incompréhensible, mais le viseur montre la direction juste dans laquelle nous devons aller. Et c'est vrai, encore une fois, hein, qui serions-nous pour prétendre faire un système qui contienne le Créateur de l'univers comme une pièce bien à sa place. Alors, je crois que maintenant, ce que je voudrais aborder, c'est les chemins du salut, justement. Et premier point, la victoire de la croix. C'est que la Bible ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête pas dans ce paradoxe dont nous ne pouvons sortir, à mes yeux, sans trahir une partie de la révélation. Et il faut la reprendre comme récit. Il faut la reprendre comme un récit qui, tout au long, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, hein, nous parle justement du mal, de la souffrance, de la mort, du péché. Toute l'alliance de Dieu, depuis le tout début jusqu'à la fin, est une alliance de salut. Le mal, sans que nous sachions exactement d'où il vient, hein, puisqu'il est déjà là dans notre histoire, dans le livre de la Genèse, hein, sous la forme du serpent, surgit dans le monde, pour dire, dès les tout premiers, tout le début, enfin, les toutes premières pages de la Genèse. Il est manifestement lié à la désobéissance et à la séparation avec le Créateur. Et durant tout l'Ancien Testament, sous des formes diverses, Dieu va tout faire pour se donner un peuple qui puisse devenir une source de salut pour tous les autres peuples. Hein, vous rappelez, c'est l'élection qui va porter sur Abraham, Abraham comme source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu va appeler, susciter un peuple en Abraham, libérer son peuple de l'esclavage, l'accompagner tout au long de son histoire, en luttant par les prophètes contre, et je dirais, comme par ses propres interventions mystérieuses hein, dans l'histoire, contre le mal qui va se trouver non seulement dans l'histoire, mais au sein même de ce peuple. Et vous vous rappelez à quel point tout l'Ancien Testament, c'est la bagarre, on pourrait dire, entre Israël et Dieu. Hein. C'est le peuple que Dieu se choisit, et en même temps un peuple récalcitrant qui est tout le temps en train de se détourner de la volonté de Dieu. Et puis les prophètes ramènent en quelque sorte tout ça, ramènent toujours la volonté de Dieu sur le devant. Mais surtout, pour nous qui sommes chrétiens, comment ne pas voir que cette question du péché, cette question du mal a tellement intéressé Dieu, j'aurais envie de dire a tellement passionné, si j'ose dire, Dieu, qu'il est venu en Jésus dans notre réalité pour assumer jusque dans sa chair les conséquences du péché. On pourrait dire que la grande réponse de Dieu au problème du mal, c'est la croix. Et cette réponse n'a rien d'un concept, c'est pas un jeu intellectuel. Vous rappelez, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, dit Paul, hein, 1 Corinthiens 5. Parmi les diverses représentations du salut dans le Nouveau Testament, et vous savez que dans le Nouveau Testament, vous avez toute une série de présentations de l'œuvre de la croix. Hein. Bon, ça peut être le sacrifice, le châtiment, la rançon, etc. Et la victoire sur Satan et la victoire sur le mal tient une place importante. Le Fils de Dieu, dans la première épître de Jean, hein, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ou bien dans Colossiens, sur la croix, Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Ou encore dans Colossiens, c'est par le Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc on pourrait dire, aucun doute que Dieu prend le mal au sérieux. Il ne nous a peut-être pas donné la clé pour comprendre le mal et pour l'expliquer, mais il s'est donné lui-même en Jésus-Christ pour nous en délivrer. Et lorsque nous parlons de Dieu et du mal, donc n'oublions jamais que Jésus, Dieu fait homme, a été crucifié. C'est-à-dire qu'il a connu le mal, il a connu la persécution, il a connu l'injustice, la torture, la mise à mort. C'est pour ça que ça paraît difficile d'imaginer que Dieu, comme certains philosophes pourraient le penser, soit étranger, indifférent au mal, trop loin dans le ciel pour être intéressé par ce genre de choses. La croix, c'est le lieu de la rencontre décisive entre Dieu et le mal, et cette croix ne peut pas être séparée de la résurrection. Si le Vendredi Saint, Dieu subit visiblement, on pourrait dire en Jésus-Christ, le mal des hommes, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, c'est en quelque sorte la manifestation, c'est en quelque sorte la preuve de la victoire. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, il ne s'agit pas, comme dans certaines visions que j'ai citées la dernière fois, du Dieu faible, un peu impuissant, souffrant avec les hommes, hein. Il ne s'agit pas des larmes d'une compassion de Dieu impuissante, mais il s'agit de l'action concrète d'un amour qui assume et qui emporte la victoire. Ceci dit, c'est vrai que l'accent dominant que la révélation fait porter sur la notion d'expiation, la notion de rédemption, souligne à quel point le péché de l'homme et sa responsabilité sont importants pour la compréhension du mal. C'est ce péché qui a été racheté. Hein. Si par la faute, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, hein, si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et en même temps, cet accent sur le salut de l'humanité ne laisse pas de côté, mais au contraire englobe la création tout entière. C'est dans Romains 8, hein, vous vous rappelez, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création entière attend avec un ardent désir. La création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder, donc elle aussi, à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Et la victoire de la croix se déploie dans la perspective du royaume de Dieu. Vous vous rappelez, dans tout le Nouveau Testament, dès le début, on parle très largement du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. Le royaume de Dieu, on pourrait dire, c'est la création de Dieu telle que Dieu la veut. C'est là où Dieu règne pleinement. Et le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est à la fois là et pas encore tout à fait là. Hein ? Jésus dit, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, il est parmi vous, il est en vous. Et puis en même temps, le royaume de Dieu, c'est aussi ce dont nous attendons la pleine manifestation. Et comme le dit Henri Blocher, le règne qui est, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui est déjà là, englobe mystérieusement le mal. Hein, quand on dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, il est là, ben, le mal aussi, il est là. Et en même temps, le règne qui vient, le royaume de Dieu que nous attendons, l'expulse. Parce que là, il n'y aura plus de mal, plus de péché, plus de souffrance, etc. Donc si nous attendons le royaume où la souffrance et le mal ne seront plus, on est bien forcé de constater qu'en attendant, le mal dure encore, et on pourrait dire à certains égards s'épanouit. Et si je dis s'épanouit, ce n'est pas juste une manière de parler. C'est vrai que la venue du royaume déclenche en quelque sorte aussi le mal. Vous vous rappelez, on voit quand Jésus arrive quelque part dans les évangiles, on voit que tout se passe comme si les démons se réveillaient. Hein, comme si le mal, au regard de la venue du royaume, le mal au regard de la venue du Christ, se manifestait encore plus. Et je crois que c'est également vrai de la même manière des hommes. Et la croix en est sans doute un des résultats. Vous vous rappelez cette parole de Jean au troisième chapitre, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » Et il y a toute cette dimension sur la persécution. Hein. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, il y a de lourdes chances pour que les serviteurs connaissent la possibilité, en tout cas, du même traitement. Donc je dirais, le chemin de l'homme, dans cette lumière de la croix, c'est la foi en celui qui nous a délivrés du mal. La confiance en celui qui a porté sur lui, dans son corps, le poids du mal et de la souffrance et qui est ressuscité. Et la résurrection, c'est déjà le signe, c'est déjà le gage de la réalité nouvelle, délivrée, qui est déjà acquise, qui est déjà, j'ai envie de dire, réalisée et qui sera bientôt manifestée, dont nous attendons la manifestation. Alors il y a un autre point que je voudrais souligner, qui complète celui-là, c'est la dimension de lutte contre le mal. La réponse de Dieu à la question du mal a été donc une réponse active, pas du tout une réponse intellectuelle, mais une réponse active, une réponse engagée jusqu'à la croix. Et il me semble que ça a pour nous une autre conséquence. La foi en l'œuvre accomplie par le Christ suppose, implique que nous le suivions, nous, dans son combat même contre le mal. Celui qui se veut chrétien ne peut pas se contenter d'une réponse à la question « si Dieu existe, pourquoi le mal ?» qui, même si elle est centrée sur le Christ, pourrait cependant passer aux yeux de certains pour une autre doctrine, pour une sorte de tour de passe-passe qui permette de contourner les rigueurs de la question. Hein, ce n'est pas parce que vous aurez dit, me semble-t-il, que finalement c'est en Jésus-Christ sur la croix que la question se règle, que vous pourrez être sûr que cette manière de dire n'est pas aussi une manière de se défiler de la question. La première dimension de cette lutte, qui est notre lutte, je dirais, à l'imitation et dans la suite de la lutte de Dieu contre le mal, elle est toute personnelle. Hein. L'œuvre du Christ appelle de notre part la foi, la confiance qui accueille et la grâce, le pardon de Dieu, hein, et la réalité de l'Esprit de Dieu. Or, le travail de l'Esprit en nous consiste principalement, ça c'est le travail de la sanctification, hein, à déraciner le mal qui est implanté dans notre cœur. La lutte contre le mal, c'est en nous qu'elle commence. Dans notre propre vie, c'est pas d'abord un problème intellectuel, c'est pas d'abord non plus la lutte contre le mal des autres. Et cette lutte va durer jusqu'à la fin. La conversion, c'est le renversement, c'est le changement radical, mais on sait bien, c'est son commencement. On sait bien qu'au moment de la conversion, tout n'est pas réglé. On sait bien que le moment de la conversion, c'est le démarrage, c'est l'entrée dans une réalité nouvelle. Mais la sanctification, elle va durer tout au long de notre existence. Et la conversion, c'est ce qui nous fait passer en quelque sorte, mais la sanctification va le développer, d'une vie sous la domination du mal, et plus que la domination, je dirais, sous l'esclavage du mal, hein, à une vie libérée du mal, ou en tout cas possiblement libérée du mal. Mais il faut garder à l'esprit que cette libération intérieure, non seulement je dirais, ne nous garantit pas contre le mal que nous pouvons subir, mais comme je disais tout à l'heure, au contraire, peut le provoquer parfois. Parce que précisément, ce changement de vie, ce changement de perspective, ce changement de valeur peut entraîner autour de nous, exactement comme Jésus, des réactions violentes. C'est pas pour rien que Jésus dit dans la dernière béatitude, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux ». Et vous rappelez, c'est la seule béatitude qui est commentée par Jésus, et il le reprend en disant, hein, « Si on vous traite bien, méfiez-vous, c'est comme ça qu'on a traité les faux prophètes hein. ». Donc, la possibilité, je dirais, que notre propre libération du mal entraîne un retour, en quelque sorte, un retour de bâton, hein, entraîne un réveil, une réanimation encore plus forte du mal autour de nous, ça fait partie, je dirais, des règles du jeu. Si j'ose dire. C'est pour ça que je crois que la persécution des chrétiens n'est jamais un scandale. C'est un drame, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas choquant. Depuis le début, depuis l'enseignement de Jésus, il n'arrête pas de nous dire, me semble-t-il, que ça fait partie, si j'ose dire, des risques du métier. Je veux dire, ça fait partie des risques avoués, des risques affirmés au départ. Donc le chemin de l'homme, c'est le chemin du Christ, et si le maître a lutté contre le mal, les disciples doivent eux aussi faire de même. Dans la conférence qu'il a donnée sur le mal, hein, que vous avez, je crois qu'il en reste un dans le stand de librairie, hein, Paul Ricoeur a écrit « La réponse, non la solution, hein, la réponse à la cervelle pour savoir d'où vient le mal, comment est-ce possible ?» Mais la vraie réponse, c'est « Le mal est là, qu'est-ce que je peux faire en quelque sorte contre ?» Le comportement auquel Jésus invite ses disciples, c'est donc l'engagement dans le combat pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite. Vous vous rappelez, dans Notre Père, j'ai l'impression que quelquefois, il y a des interprétations du « que ta volonté soit faite » qui sont des interprétations fatalistes. Que ta volonté soit faite, voilà, et puis ce qui arrive, arrive. Ce n'est pas le sens du tout du Notre Père. Hein. Je crois que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est un commentaire de « que ton règne vienne ». Mais « que ton règne vienne », c'est « je prie Seigneur pour que ton règne vienne, pour que ta volonté d'amour, ta volonté de justice, etc., se réalise effectivement. Et si je prie, moi, Seigneur, que ton règne vienne, implicitement, ça veut dire que ma vie est impliquée là-dedans et que je m'engage dans mon comportement pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur cette terre à nous, comme elle est faite aussi dans les cieux. Cette lutte, elle est contre le mal dans les deux sens. Elle est à la fois lutte contre la souffrance, contre le mal subi par les autres, et par moi accessoirement, on y reviendra, et puis lutte contre le mal commis, contre le mal qui se commet sans cesse. Cet engagement à la suite de Jésus, vous rappelez que Jésus a lui-même nourri les affamés, guéri les malades. C'est pas simplement intéressé au salut des âmes, si j'ose dire. Mais il a lutté concrètement contre des manifestations extérieures, physiques même, de la souffrance. Cette lutte, elle concerne aussi bien les dimensions relationnelles les plus intimes, la relation que je peux avoir avec une personne qui souffre, que, me semble-t-il, les dimensions les plus larges, les structures d'injustice qui sont dans la société. Et je crois que les deux vont de pair. Il ne faut pas qu'en quelque sorte la parabole du bon samaritain nous enferme dans la relation avec cette personne-là qui est sur mon chemin, qui est en train de souffrir. Bien sûr, c'est une vraie... c'est le premier pas. Je ne résiste pas à la tentation de rajouter un bout à la parabole. Mais je crois que c'est fidèle, même si ce n'est pas biblique. C'est un apocryphe personnel. Imaginez, vous rappelez la parabole du bon samaritain, hein, sur la route de Jérusalem à Jéricho, il y a un type qui se promène, qui se fait tabasser, même. Hein, bon, et puis passe un certain nombre de gens. Hein, Il y a un pasteur évangélique qui est en train de penser qu'il va à l'étude biblique et tout, qui est pressé parce qu'il est en retard, il n'est pas au GBU, il y a des gens qui tiennent à l'heure, etc. Et donc, en passant, il dit, quelqu'un s'en occupera, il passe, etc. Bon. Et puis, après, il y a un prêtre catholique qui va dire sa messe, etc., qui passe, qui ne fait pas gaffe, etc. Bon. Et puis, il y a, vous imaginez ce que vous voulez, je dirais un musulman maghrébin. C'est un peu ça, le bon samaritain. Par rapport aux juifs, c'est la même idée. Qui passe, c'est lui qui va s'arrêter, qui va s'occuper du type qui le met dans sa voiture, dans sa deux chevaux, qui l'amène jusqu'à l'hôpital le plus proche, etc. Et comme il n'a pas la sécurité sociale, c'est même lui qui paye. Bon, enfin, vous pouvez. Ça, c'est ce que dit la Bible en gros. Français moderne. Imaginons simplement la suite. Le lendemain, sur la même route de Jérusalem à Jéricho ou de machin à Lyon, il y a encore un type qui se balade et qui se fait tabasser. Alors, on peut espérer que le bon samaritain... fasse des allers-retours permanents. Et bon, au bout d'un certain temps, il va fatiguer. 15 jours plus tard, même chose. Si on essaie de suivre cet amour du prochain, il me semble que ça ne serait pas absolument stupide de se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rendre la route un peu plus sûre? C'est simplement le même amour. Il n'y a pas une différence, mais c'est comme ça qu'on passe à la politique, hein, j'ai envie de dire. C'est le même amour exactement, simplement à un peu plus long terme. Hein, c'est pas simplement je vais aider, vous savez, c'est la même idée. Hein, c'était Don Elder Camara, vous savez, qui était un cardinal, enfin un archevêque au Brésil, hein, et qui disait un truc que je trouve très, très, très juste, amusant vachement intelligent. Il disait, c'est étrange. Quand je donne à manger à quelqu'un qui a faim, on dit que je suis un saint. Et puis quand je pose la question de savoir pourquoi cet homme a faim, on dit que je suis un communiste. Mais c'est la même idée, ça. Hein. C'est essayer de résoudre le problème immédiatement. Et puis, je dirais, la lutte contre le mal, c'est aussi essayer de lutter contre les structures d'injustice qui favorisent, qui entraînent en quelque sorte le mal. Alors, dans l'enseignement de Jésus, ce qui incarne, me semble, en quelque sorte, les structures d'injustice, c'est la violence infligée. Hein, la violence infligée à quelqu'un. Et c'est pour cette raison, me semble-t-il, que, toujours dans son enseignement de Jésus, mais dans le Nouveau Testament en général, mais dans l'enseignement de Jésus, je dirais de manière toute particulière, la question des moyens que nous employons pour résoudre le problème est une question extrêmement importante. Aussi importante que la fin qu'on se propose. Et ça, c'est important pour nous, je crois, d'y penser. Il y a des moyens, il y a des manières, je veux dire, de vouloir faire le bien, qui en fait ne font qu'augmenter le mal qui existe dans le monde. La dernière fois, j'ai parlé du nazisme. Vous vous rappelez, à travers les camps de la mort. On pourrait dire que le nazisme, il est parfait comme symbole, parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas trop reprocher à Hitler, c'est d'avoir été hypocrite. Je veux dire, dans le nazisme, l'idéologie du mal est à découvert, on pourrait dire, hein. Et si vous voulez, dans Mein Kampf, je dirais, l'ensemble de ce que Hitler voulait faire à peu près était déjà présent. C'est clair, c'est bon. Mais si on pense à quelque chose qu'on pourrait mettre facilement en regard, hein, si on pense à tous les gens qui, au cours du siècle qui vient de passer, se sont engagés dans le communisme avec des idéaux de liberté, de justice, de fraternité. Je crois que c'est un truc qu'on a du mal à penser quelquefois. Quand on dit nazisme, communisme, c'est la même chose. Oui et non, ça dépend à quel point de vue on se place. Hein. L'ESS, je dirais, qui s'engage avec un idéal de pureté raciale, de domination, etc., etc. Et puis le communisme qui s'engage avec un idéal de justice, de liberté, de libération des opprimés, etc. Il y a un monde de fraternité. L'idéal conscient du communisme, pour beaucoup de gens, je ne dis pas de Staline, c'est autre chose, mais je dirais, c'était lutter contre le mal de l'oppression et le mal de l'exploitation. Le résultat historique de ça, ça a été une nouvelle forme de dictature, ça a été des millions de morts, et ça a été, c'est vrai que les camps du goulag n'ont pas grand-chose à envier aux camps allemands. Donc je veux dire, on a des gens qui se sont engagés sur des idéaux de justice, l'idéal, et ça change beaucoup de choses, je dirais, au niveau moral, au niveau de l'engagement de la personne, mais au niveau du résultat historique, la différence est moindre. Ça doit nous aider à comprendre, en tout cas c'est le but, que les idées nobles ne suffisent pas, et que les moyens employés pour défendre une idée qui est juste, qui est bonne, etc., peut pervertir complètement, peut transfigurer, enfin transfigurer au mauvais sens du mot, hein, peut défigurer plutôt complètement les fins les plus justes. Et si vous lisez le sermon sur la montagne, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point Jésus s'intéresse non pas au bien que nous sommes appelés à faire, mais à la manière de le faire. La force dans notre histoire, dans notre monde, elle est peut-être nécessaire, je crois, pour limiter, par exemple par un gouvernement, les débordements du mal dans une société. Hein, c'est le rôle des magistrats dans Romains, dans le chapitre 13e, par exemple, hein, de Romains. Mais en même temps, on pourrait dire que la vocation propre du chrétien, la vocation propre de l'Église est ailleurs. Le sermon sur la montagne souligne fortement l'appel à la réconciliation, le refus de la violence, l'amour de l'ennemi. L'amour de l'ennemi, on a toujours du mal à rentrer là-dedans, hein. Mais l'amour de l'ennemi, quand Jésus dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent », etc., nous imaginons toujours plus ou moins, ou plutôt nous fonctionnons comme si l'amour de l'ennemi, c'était déjà un ennemi presque repentant. Hein, vous imaginez l'abominable individu qui vient nous demander pardon. Et alors, qu'est-ce qu'on est bon, là, on le pardonne. Et alors, ça, c'est pratique, parce qu'on se place déjà dans une situation de supériorité, c'est très valorisant, etc. Mais c'est pas de ça dont il est question. L'ennemi dont il est question dans le sermon sur la montagne, c'est l'ennemi qui nous donne une gifle sur la joue droite, c'est l'ennemi qui nous force à faire un certain nombre de choses, hein. C'est le vrai ennemi. C'est l'ennemi dans sa puissance, et pas l'ennemi dans sa faiblesse et dans son début de repentance. C'est le type qui vous marche sur les pieds et qui appuie consciencieusement pour être sûr que ça fait mal. Et cette idée qu'on va trouver très fortement dans le sermon sur la montagne, très largement, on va le retrouver de la même manière chez Paul. C'est très frappant de voir que dans l'épître aux Romains, si vous allez juste avant Romains 13, c'est juste avant Romains 13 et juste après Romains 13, hein, Paul dit « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. » Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et alors, il y a cette formule que je crois alors clé pour notre lutte contre le mal. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et être dominé par le mal, ça peut être dominé par le mal en rendant le mal pour le mal. Si vous regardez, peut-être que je vous en ai parlé la dernière fois, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Si vous regardez, par exemple, ce qui se passe en Yougoslavie, ce qui se passait en Yougoslavie au moment de la guerre, chacun des participants à cette guerre était justifié dans les atrocités qu'il était en train de commettre par les atrocités que l'autre peuple avait commises sur ses pères, grands-pères, etc. Et les pères, grands-pères avaient commis ces atrocités en réponse aux atrocités. Etc. On a la mémoire longue, hein. Et je crois que lorsque finalement vous écrabouillez un peuple, ou lorsque vous c'est vrai pour un peuple, c'est vrai pour une personne, de la même manière. Lorsque vous écrabouillez un peuple, justement, parce qu'après tout, il vous a cassé les pieds suffisamment longtemps, vous préparez très exactement la riposte qui viendra un peu plus tard. La Deuxième Guerre mondiale, elle est venue en grande partie de la manière dont les Alliés ont, je dirais, rabaissé l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Ça a créer tout ce qu'il fallait pour que, lorsque la force a été suffisante pour qu'il y ait la riposte, finalement, ça a entraîné. Et l'histoire du monde, en grande partie, fonctionne comme ça. La démarche de Jésus, ou la démarche, je dirais, de la non-violence qu'on trouve dans le sermon sur la montagne, c'est de casser le cycle. C'est finalement d'accepter de ne pas répondre au mal par un autre mal qui entraînera encore un autre mal, mais d'arrêter le cycle. Le problème, et c'est ça la difficulté, c'est que ce genre d'attitude dans la personne de Jésus suppose la croix. Et que ce genre d'attitude dans notre propre comportement entraîne un risque majeur, je dirais, d'assumer le mal, mais de l'assumer de manière douloureuse, si j'ose dire, hein, qui peut être extrêmement forte. C'est exactement, je dirais, le chemin qu'a suivi Jésus. Hein, pas simplement l'enseignement, mais le comportement de Jésus qui aboutit à l'acceptation de la croix, c'est la non-résistance, finalement, au mal. Quand Jésus dit « Ne crois-tu pas que si je voulais, je pourrais avoir 12 légions d'anges ?» Ça serait, je dirais, la riposte au mal par un mal. Lorsque Jésus est arrêté et Pierre, dans son enthousiasme, sort son épée et coupe l'oreille, il ne devait pas être très doué. Parce que je ne pense pas qu'il ait visé l'oreille, je crois qu'il visait mieux. Mais coupe l'oreille au garde, non seulement Jésus lui dit de rentrer l'épée, lui dit plus que ça, lui dit celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Donc je veux dire, c'est le principe même que Jésus remet en cause, mais va guérir l'oreille du garde. Si c'est le comportement de Jésus, et si Jésus est vraiment Dieu fait homme, alors je dirais de la même manière, c'est aussi le Jésus comme modèle de ce que Dieu veut et comme modèle du comportement qui peut être les nôtres. C'est en aimant nos ennemis, en priant pour eux, que nous serons les enfants de notre Père Céleste. Vous vous rappelez, dans le Sermon sur la montagne, le fondement de tout ça, c'est l'imitation de Dieu. Hein, aimez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maudissent, etc. Ainsi vous serez les enfants de votre Père, qui lui se comporte de cette manière. Et la conclusion du passage, c'est « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc je crois qu'il n'y a pas de place dans la pensée chrétienne pour cette fatalité que l'on rencontre parfois, même dans les milieux issus des réveils, etc., et qui ne pense qu'à sauver les âmes en les sortant en quelque sorte du monde. Je crois qu'on ne peut répondre de façon chrétienne au mal qui reste en face de nous qu'en le combattant, en le combattant en nous, en le combattant et en le combattant aussi, je dirais, de la même manière, dans la société. Alors je voudrais terminer par souligner un autre point. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que l'heure tourne et je voudrais qu'on ait le temps quand même de discuter. L'autre point, c'est le mal qui nous touche. Je vais terminer en proposant quelques remarques sur le mal lorsque nous le rencontrons dans la vie, concrètement, pas le mal théorique ou lointain. Nous savons bien que nous ne sommes pas à l'abri et que la foi n'est pas une assurance tout risque, que rien ne surviendra de douloureux ni d'incompréhensible. Je sais bien que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Psaume 23. Et cependant, c'est pas aussi simple que ça. On sait bien que les décès avant l'heure prévisible, que les guerres, les tremblements de terre, les maladies ne nous sont pas épargnés. Et la persécution non plus. Et lorsque cela survient, le danger, c'est que nos beaux raisonnements en prennent un sacré coup. Il me semble que la première chose que je voudrais dire, c'est que la protestation est naturelle. Elle est spontanée, vous me direz, mais je crois qu'elle est saine. C'est la plainte indignée de Job qui refuse et la culpabilisation des autres et même les consolations des amis. Que nous soyons scandalisés par le caractère scandaleux du mal ne doit pas nous faire peur. Et il me semble que c'est tout le sens de certains écrits d'Elie Wiesel hein, qui entretient dans ses livres une longue conversation avec Dieu, une longue bagarre, si j'ose dire, avec Dieu. Comment as-tu pu permettre ? Et je crois que le paradoxe que j'ai souligné tout à l'heure, hein, dans la compréhension de Dieu, puisqu'il est à la fois tout-puissant et à la fois toute bonté, ne balaie pas les révoltes naturelles. Et au niveau de la relation à Dieu, au niveau de la prière, s'il y a un livre dans la Bible qui est un manuel, en tout cas qui est un livre où on nous apprend à prier, c'est les psaumes. Combien de fois dans les psaumes, vous avez des réactions contre Dieu ? Le psalmiste, très souvent, il n'est pas tout seul, il y a d'autres textes bibliques, hein, mais répète souvent « Jusque à quand, Seigneur ? Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand l'oppresseur outragera-t-il ? Jusque à quand t'irriteras-tu sans cesse ?» hein, si vous voulez aller voir plus loin, vous avez psaume 13, 74, 79, mais c'est presque infini. Ou bien dans Habacuc, au début, « Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ? Jusque à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres ? Pourquoi nous fais-tu voir de telles injustices ? Peux-tu rester indifférent à nos tourments ?» Si vous lisez les Lamentations de Jérémie, vous avez exactement le même raisonnement sur base historique. Hein, là, c'est la ville qui vient d'être détruite, etc. Et je crois que ce cri de révolte, il est bien plus sain que le silence désespéré, écrabouillé, hein, ou bien la soumission fataliste. Le silence désespéré, c'est quand on est tellement écrasé par le mal qu'on a subi, que finalement il n'y a plus rien qui bouge en nous, en quelque sorte. Hein. Et puis la soumission fataliste, c'est, ça me paraît pire, pas pire encore, mais de même nature, c'est finalement, on ne peut rien comprendre. Ça veut dire d'une certaine manière, on ne peut rien comprendre, donc il faut accepter. Ça veut dire d'une certaine manière que, alors on n'y croit plus trop que Dieu est amour. Je dis, pour moi, la révolte de Job, la révolte du psalmiste, la révolte d'Habacuc, c'est de prendre Dieu au mot. C'est-à-dire, si tu es amour, mince. On pourrait même dire d'autres choses. Non, mais je dis ça parce que je ne suis pas dedans. Mais comment est-ce que tu peux permettre ça? Et je crois que le jour où le ressort se détend, quand on n'est plus capable de réagir, c'est peut-être que, dans notre vision de, que notre vision de Dieu aussi, me semble-t-il, se ramollit. Si Dieu est amour, s'il est tout-puissant, quoi de plus naturel que de se tourner vers lui? Et les questions se bousculent en nous, hein, dans ces cas-là. Finalement, tu nous demandes d'aimer nos ennemis, tu nous demandes de pardonner, etc. Est-ce qu'on est meilleur que toi, alors? Est-ce que tu nous demandes de faire mieux que ce que tu fais vis-à-vis de nous? Comment est-ce qu'on va comprendre son silence? Si je crois en hermétique à la question et que le silence de Dieu ne nous gêne pas du tout, mais non, c'est que je crois qu'on a loupé un truc, quand même. C'est notre relation à Dieu qui est peut-être un peu ambiguë. Alors, les textes bibliques n'en restent pas là. Et vous remarquerez que les psaumes, mais Job aussi, mais que les psaumes se terminent souvent, toujours presque, par l'expression de la confiance en la bonté incompréhensible de Dieu. Mais, il me semble, méfions-nous d'une prétendue confiance qui voudrait faire l'économie de la protestation. C'est-à-dire qu'il y a tout un chemin que suit le psalmiste. Et à la fin, il arrive à cette confiance. Il y a un temps pour toute chose, et je crois que vouloir aller trop vite aboutit souvent à un comportement, et si tout de suite je ne lis que la fin du psaume, et même si ça bouillonne en moi, je dis Seigneur, oui, merci, tout ça, je crois que ça aboutit souvent à un comportement qui est conformiste, qui est artificiel aussi. Il a fallu d'abord, par exemple pour Job, hein, Job va s'humilier à la fin de sa révolte. Et il va entrer dans l'acceptation mystérieuse de Dieu. Mais il a fallu d'abord qu'il exprime son indignation, et Dieu l'a laissé faire, et Dieu lui a répondu. Dieu ne s'est pas indigné de ce que Job s'indigne. Et ce n'est qu'après la réponse, et à cause de la réponse de Dieu, qu'il a pu entrer dans une nouvelle perspective. Moi, je crois qu'il faut se garder d'aller trop vite et de court-circuiter les émotions et les réactions naturelles qui sont nécessaires. Nous ne trouverions au bout du chemin que des contrefaçons, qui sont des apparences pieuses, mais qui n'en seraient peut-être pas moins pathologiques, je crois. De même que le deuil prend du temps. Il y a un temps nécessaire au deuil. Je crois que de la même manière, notre réaction devant Dieu, elle doit surtout être vraie. Et c'est en tout cas, il me semble, ce que la Bible nous montre et à ce à quoi la Bible nous invite. Alors, au-delà de ce point, il est possible d'envisager une autre sagesse, mais qu'il nous faut aborder avec une grande prudence. C'est, on pourrait dire, le point d'arrivée de tout ça. C'est le consentement. C'est le point d'arrivée du cheminement précédent. C'est aussi, avant les perturbations des amis de Job, on pourrait dire, le point de départ de l'attitude de Job. Hein. Vous vous rappelez, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La confiance en Dieu, là, est telle que le pire qui peut survenir ne la touche pas. Ne la touche pas, la confiance. Ça ne veut pas dire que ça ne nous touche pas. Hein, ça peut être au sein d'une souffrance perçue douloureusement, etc. Mais cette confiance, en quelque sorte, n'est pas en Dieu. Elle est fondatrice, elle n'est pas ébranlée, en quelque sorte, par ça. Et on peut sans doute lier à cela la phrase célèbre de l'apôtre Paul que Joël Richert a soulignée hier. Hein. Rappelez, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dans Romains 8. Toute chose. Dans ce mystère du tout, il y a de la place pour bien des choses. Hein. Il y a de la place pour tout ce dont nous avons parlé. On pourrait dire que là, de même que le non-violent accueille en lui la violence subie sans la rendre, et sans ajouter du mal au mal du monde, hein, la foi ici, on pourrait dire, accueille la souffrance, accueille le mal reçu, dans la paix et dans la confiance. Et je crois qu'on peut garder cette attitude-là à l'arrière-plan de la pensée. Je veux dire par là, on peut garder cette attitude comme le bout du chemin. Ce dont, peut-être, un jour, nous deviendrons capables. Mais à condition de nous rappeler deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre le chemin avec le bout du chemin. Il ne faut pas confondre la vie chrétienne dans sa réalité tortueuse. Le chemin étroit, il n'est pas forcément l'autoroute. Hein. La vie chrétienne dans sa réalité avec la sainteté, avec ce que nous sommes appelés à devenir. Je dirais, ne soyons jamais culpabilisés par ces versets. Ne nous disons pas, je devrais dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, et sinon je suis pécheur, je suis coupable, etc. C'est pas le psalmiste, il fonctionne pas comme ça. Le psalmiste, il va finir par y arriver à ça, mais il va prendre tout un temps pour y arriver, et dans ce temps, il y a l'expression de la souffrance, il y a l'expression de la révolte, etc. Et je crois que c'est important. Ne culpabilisons pas les autres avec ce genre de versets qui pourraient devenir des armes vraiment extrêmement redoutables. Souvenons-nous que les psaumes nous invitent au réalisme, à accepter nos réactions réelles pour parvenir à les dépasser. Puis la deuxième chose, c'est que tout cela, me semble-t-il, ne peut être dit qu'à la première personne du singulier. Si quelqu'un dans la vie, dans la vérité, je veux dire, vit ça, on ne peut que s'en réjouir pour lui et avec lui. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est dans la souffrance. Sinon, c'est une gifle. Quelqu'un qui est en train de souffrir, tu lui dis, tu sais tout, concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est presque de l'ordre c'est de l'agression pure et simple. Alors que si la personne le dit et le vit, ça c'est tout autre chose. J'ai connu un jour un vieil homme qui est passé par le deuil et qui moi je faisais la visite pastorale là, hein, et qui m'a dit ça, la phrase de Job, et ça sonnait juste. Quand quelqu'un peut le dire, je dirais c'est admirable et c'est formidable pour lui. Mais je crois que jamais, au grand jamais, on ne devrait pouvoir imaginer de dire une chose pareille à quelqu'un. Ce que nous ne pouvons faire, c'est uniquement l'accompagnement des gens. Le frère, la sœur ne peut qu'accompagner son frère, sa sœur, au point où il en est dans l'incompréhension peut-être, dans l'indignation, en espérant qu'il arrive un jour, enfin arrive finalement à l'acceptation. Si moi je peux dire ce genre de choses, moi qui suis touché par le mal et par la souffrance, je crois que si les autres le disent, ça sera toujours perçu comme une manière de minimiser le mal. C'est que finalement, c'est pas si grave que ça, tu devrais pas en faire tout un plat. Et ça, c'est une injure. Enfin, gardons-nous, et je termine par là, de confondre, et je crois que c'est important aussi, le temps de la lutte et le temps de l'accompagnement. Il y a des temps et des situations qui sont différentes. Il y a des souffrances des autres. Je parle uniquement de la souffrance des autres, là. Il y a des souffrances des autres qui impliquent la lutte. L'autre qui, devant moi, maintenant le devant moi, il est large, hein, avec les médias et nos moyens d'intervention. Mais l'autre qui souffre d'injustice n'attend pas de moi seulement la compassion, mais attend de moi légitimement la lutte pour la justice. Mais il y a des moments où il ne s'agit pas de ça. Il y a des moments où une personne souffre et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que, ben voilà, elle souffre d'un deuil dramatique, je ne sais pas quoi. Ben... Et notre tentation à nous, c'est de faire quelque chose. Et notre tentation à nous, c'est de lutter contre quelque chose, contre des moulins à vent, parce que ce n'est pas efficace. Et là, je crois qu'il faut qu'on se méfie de ça. Parce que c'est une manière de se défiler. C'est une manière de se rassurer. Parce qu'en faisant quelque chose, on a l'impression qu'on sert. On a l'impression qu'on est utile. Alors que la seule chose qui nous est demandée... Et d'une certaine manière, en cherchant à expliquer, les amis de Job font ça. Ils trouvent une solution et ils s'agitent. Mais c'est de l'agitation. La seule chose qui nous est demandée dans ces cas-là, c'est de s'asseoir, si j'ose dire, Et c'est de souffrir avec, c'est d'accompagner la personne au point où elle en est, et pas d'essayer de nous défiler en nous donnant l'impression qu'on peut faire quelque chose des fois où il n'y a rien à faire. Nos deux tentations, je dirais, c'est de plonger dans la compassion sans rien faire, alors qu'il y a à faire, à se lever et à lutter, ou alors c'est de s'agiter inutilement quand justement il n'y a plus rien à faire et qu'il y a à accompagner la personne au point où elle en est. Donc en approchant cette question du mal, je crois qu'on touche là au cœur de la démarche chrétienne. Et si je dois résumer, mais vous avez sûrement ça en tête, il me semble qu'il faut essayer de garder ensemble tout ce qui nous est donné. Il faut refuser de simplifier le problème pour le faire entrer dans nos systèmes. Il faut se rappeler que nous parlons du sein même de notre situation humaine. Qu'on n'est pas sur un petit nuage abstrait au-dessus de l'histoire à organiser les choses, hein, le puzzle, mais on est en plein dedans. Et que tout doit être ainsi rapporté au centre, tout doit être rapporté à l'Évangile, tout doit être rapporté au Christ. La croix, la résurrection sont au cœur même de toute la démarche chrétienne, de toute la compréhension du mal qui se veut chrétien. Mais la vie des disciples en découle de manière très directe. Je dirais que la vie des disciples découle de la croix. Rappelez, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, et de la résurrection. Tout le sens du baptême, c'est la mort avec le Christ, c'est la résurrection pour vivre avec. La vie chrétienne et l'œuvre du Christ sont complètement liées. Il me semble qu'il ne faut jamais cesser de lutter contre le mal sous quelque forme que ce soit et contre ses effets. Et en ça, on sera simplement disciple de Jésus qui a lutté contre le mal en l'assumant jusqu'au bout. Aucun raccourci n'est possible. Aucune solution, aucune explication qui nous ferait apprivoiser le mystère du mal et en même temps, je dirais, qui nous donnerait alors des raisons de cesser de lutter. Aucune de ces explications n'est acceptable. Le mal reste un mystère que nous ne pouvons percer, je crois, sauf à se donner des schémas un peu superficiels et rapides. Et c'est vrai du mal du monde, c'est vrai du mal des autres, c'est vrai du mal qui me touche, moi. La foi, la lutte et le soin des autres dans le respect des temps qui sont les leurs, des moments où ils en sont, je crois que c'est ça les meilleurs et c'est les vraies réponses. Et merci de votre attention. Ce qui aurait été grave, c'est pas que Job râle, c'est que Job renie Dieu. C'était l'enjeu avec le diable, hein, dans le premier chapitre. Or, Job s'indigne, mais ne pêche pas. Je veux dire, ne renie pas Dieu. Hein. Et à la fin, quand Dieu se manifeste à Job et entre en relation avec lui, je crois qu'il dit, mais pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends, c'est exactement ça. Hein. Est-ce que tu étais là quand j'ai fondé la terre ? Est-ce que regarde bah. Et Job se dit, oups, ce que j'ai dit finalement ne collait pas avec la réalité de Dieu. Mais j'ai pas l'impression, et il se repent de ça, mais j'ai pas l'impression, voilà, ça c'est après des lectures, hein, mais j'ai pas l'impression que Dieu reproche à Job. Je crois qu'il le ramène un peu à la réalité. Rends-toi compte qui tu es, qui je suis. Bon, mais voilà, c'est pas. Moi, j'ai l'intuition en lisant le texte que Dieu trouve ça plutôt sympathique et qu'il préfère l'indignation de Job, même si il pousse un peu le bouchon, Job, aux pieuses, sages et théologiquement correctes explications des amis.